Radio Kaléidoscope, c'est de la terre.
La parole est mienne pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaléidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Alors, bienvenue sur Dégenré. Une émission où ce soir on va parler de littérature et de plein de trucs,
de BD.
Et on avait envie de faire une émission littérature aussi parce que ça fait longtemps qu'il y a pas mal de bouquins qu'on aime bien et qu'on avait envie d'en parler. Et aussi dans la BD, et qu'il n'y a pas beaucoup de meufs qui font de la BD. Puis aussi qu'on se rend compte qu'il n'y a pas... Il n'y a pas des tonnes de meufs qui écrivent, qui sont connues en fait. Et on s'est rendu compte que, genre, avant les années 1970, quasiment toutes les femmes qui écrivaient, elles étaient considérées par l'opinion publique comme des exceptions en fait. On ignorait même, je dirais, les femmes écrivaines. Et les femmes, elles étaient représentées, mais seulement comme des femmes images, des femmes objets. Des femmes à vendre, elles participaient au commerce, quoi, la littérature. Et du coup, on a choisi chacune des bouquins qui nous plaisaient. Et notamment, on a choisi un bouquin qui date de l'édition des femmes, une édition qui s'est créée justement dans les années 1970. Ça a d'abord commencé par un collectif aux États-Unis, puis après, ça a été repris en France. Et c'est quand même un truc assez chouette parce que c'était enfin une prise des paroles des femmes, des témoignages, et c'était comme enfin les femmes, elles sortaient du lourd champ du silence, et leurs écrits, leurs paroles étaient plus juste des bavardages de gnognottes, quoi. Je sais pas comment.
Ouais, elles ont investi un terrain de
un terrain d'expression qui leur était pas réservé jusqu'à présent.
C'est ça, et tout à l'heure on se disait juste avant de commencer que finalement il n'y avait pas des masses des écrivaines qu'on connaissait, même nous quoi, encore aujourd'hui quoi.
Ouais.
Pourtant il y en a qui écrivent, il y en a plein.
Et ouais, de vieilles écrivaines, on a trouvé Colette et Georges Sand.
Non mais il y a Virginie Woolf aussi. Hein,
oui c'est vrai.
Et puis du coup on va commencer par un morceau qui va être balancé dans 3 minutes. Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could ever, ever ask for more? Love without complications galore. Many shapes and weights to choose from. I will never leave my bedroom. I will never cry at night again. Wrap my arms around him and pretend. Coin operated boy. All the other real ones that I destroy cannot hold a candle to my new boy. My coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy?
Voice saying that he loves me, that he's thinking of me, straight into the vous êtes bien sur Dégenré. On vient d'entendre un morceau des Dresden Dolls qui s'appelle Coin Operated Boy ou Le Garçon Automate et qui parle d'une fille qui voudrait que son petit copain soit un robot pour être une sorte de jouet sexuel. Et maintenant, c'est Sarah qui va nous présenter une BD qui s'appelle Fun Home.
Oui, donc Fun Home, c'est une BD écrite par Alison Bechdel qui est sortie là... Fin 2006 ou début 2007, je ne sais plus exactement, mais qui est le fruit de 7 ans de travail. Donc Alison Bechdel, c'est une auteure américaine qui a commencé à publier une série en 83 qui s'appelle Dykes to Watch Out For, ou Lesbienne à suivre, et qui est publiée dans une cinquantaine de journaux alternatifs et surtout gays et lesbiens, un peu partout dans le monde, mais qui est surtout connue en Amérique du Nord. Elle raconte dans Fun Home, qui est son dernier roman, elle raconte un peu son enfance et sa relation avec son père. C'est un roman autobiographique qui est le fruit de 7 ans de travail. Et ouais, donc sa relation avec son père est particulièrement complexe. Arrêtez. C'est un père tyrannique et obsédé par la déco intérieure. Il cache un lourd secret qui est son homosexualité et tout le livre, ça parle un peu de ça, de comment ce secret il plombe toute la jeunesse de Alison Bechdel et toute son enfance. Et en fait, tout ce qui les unit, c'est ça, parce qu'Alison Bechdel est lesbienne aussi. Et du coup, ils sont aussi liés par la littérature, et elle raconte son amour de la littérature et sa relation avec son père dans ce roman. Et donc je vais en lire un petit passage, je vais lire le début, parce qu'il est particulièrement révélateur de l'atmosphère de l'ensemble de son œuvre. Comme beaucoup de pères, le mien se laissait parfois convaincre de faire l'avion. Il me lançait et je retombais de tout mon poids au point de réception entre ses pieds et mon estomac. Un inconfort compensé par le trop rare contact physique et plus encore par l'instant de parfait équilibre quand je planais au-dessus de lui. Au cirque, le numéro où un acrobate allongé en tient un autre en équilibre sur ses pieds s'appelle le jeu d'Icare. Si l'on considère le sort d'Icare, qui a ignoré la vie de son père et volé si près du soleil que ses ailes ont fondu, on peut parler d'humour noir. Dans notre version personnelle de cette relation mythique, ce n'est pas moi, mais mon père qui devait tomber du ciel. Mais avant la chute, il parvint à faire pas mal de choses. On peut dire que sa plus grande réussite fut la restauration monomaniaque de notre vieille maison. Quand d'autres enfants appelaient notre maison un manoir, je protestais. Je détestais cette façon d'insinuer que notre famille était riche ou différente. En fait, nous étions différents, même si je n'ai su que bien plus tard à quel point c'était vrai. Mais nous n'étions pas riches. Les corniches dorées, les cheminées en marbre, les lustres de cristal, les étagères de reliures plein cuir, rien n'était acheté. Tout surgissait du néant grâce au don de prestidigitation remarquable de mon père. Mon père pouvait transformer l'ordure en or. Il savait transfigurer une pièce d'un geste désinvolte, faire naître un intérieur d'époque à partir d'un échantillon de peinture. C'était un alchimiste des apparences, un détail de la déco. Car si mon père était Icare, il était aussi Dédale, cet habile artisan, ce savant fou, qui a conçu les ailes de son fils et dessiné le célèbre labyrinthe, qui n'obéissait pas aux lois de la société mais à celles de son art. La restauration d'époque n'était pas son travail, c'était sa passion, dans tous les sens du terme. Il était libidinal, maniaque, martyr. Notre maison néo-gothique avait été construite en 1867, durant le bref épisode de prospérité que notre petite ville de Pennsylvanie devait à l'industrie du bois. À partir de là, les fortunes locales avaient périclité. Quand mes parents l'avaient achetée en 1962, la maison n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les volets et les volutes avaient disparu. Les bardeaux avaient été recouverts de planches douteuses. Les ampoules nues éclairaient un papier peint minable datant de la dernière guerre et des boiseries vert pastel. Les portants exubérants du porche étaient tout ce que la maison avait conservé de sa splendeur passée. Mais au cours des 18 années suivantes, mon père allait s'attacher à ramener la maison à son état d'origine, et plus encore. Il allait, comme Dédale, déployer une époustouflante habileté. Transformer le terrain aride en un luxuriant jardin fleuri. Manipuler des dalles qui pesaient une demi-tonne, et des feuilles d'or d'une incroyable finesse. Ça aurait pu être une histoire romantique, comme, dans La vie est belle, quand Jimmy Stewart et Donna Reed retapent la grande maison et y élèvent leur famille. Mais dans le film, quand Jimmy Stewart rentre à la maison un soir et commence à crier après tout le monde, ça reste exceptionnel. Dédale, lui aussi, était indifférent au coût humain de ses entreprises. Par exemple, il trahit allègrement le roi quand la reine lui demanda de fabriquer un déguisement de vache afin de séduire le taureau blanc. Le résultat de ce stratagème, un monstre mi-homme mi-taureau, inspira à Dédale sa plus grande création. une cachée à le Minotaure dans un labyrinthe, un dédale de passages et de chambres, ouvrant l'une sur l'autre à l'infini, d'où, ainsi que les jeunes gens égarés allaient le découvrir à leurs dépens. Fuir était impossible. Il y a aussi ces fameuses ailes. Dédale fut-il vraiment accablé de chagrin quand Icare s'abîma dans la mer, ou juste déçu par l'échec de ses plans? Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. De plus, mes frères et moi offrions une main-d'œuvre gratuite. Ils nous considéraient comme des extensions de son corps, des bras robots de précision. En théorie, ses relations avec ma mère relevaient plutôt de la coopération. En pratique, absolument pas. Chacun résistait à sa façon, mais en fin de compte, nous étions tous également impuissants face aux assauts décoratifs de mon père.
Dreaming this dream, or is this dream dreaming me?
Open your eyes!
Donc là, c'était un morceau de Submission Hold qui s'appelle Meaning in Flames. Et donc, ouais, juste avant, je vous avais lu un petit passage de Fun Home. On aime bien se répéter sur des gens. comme vous l'aurez compris. Et ouais, du coup, c'est une BD qui m'a vachement parlé et que j'ai trouvé super intéressante dans comment elle met en parallèle plein de choses. Comment elle met en parallèle le coming out de Alison Bechdel, donc l'auteur. Et la mort de son père qui cachait son homosexualité depuis super longtemps apparemment. Et ce que j'ai trouvé super chouette aussi, c'est toute cette atmosphère vraiment plombée qui je trouve qu'elle décrit vraiment très très bien. Parce que en fait ils tiennent dans leur maison, ils tiennent une espèce de chambre funéraire. Ouais voilà, le mec il est mort et sont des thanatopracteurs ou je sais pas comment on appelle ça. Et c'est un peu la même atmosphère que dans Six Feet Under, la série bien connue. Et
ben voilà, c'est une BD que on vous invite à lire. En plus, elle est grosse, alors on peut mettre plein de temps à la lire, c'est super.
Ouais. C'est publié chez De Noël Graphique et puis ça se trouve dans toutes les bonnes librairies.
Et puis on va passer à autre chose. Je vais vous lire un extrait, enfin plusieurs extraits d'un bouquin qui s'appelle La Mal Castrée d'Emma Santos. Elle a écrit plein d'autres bouquins. Elle a écrit L'illogicienne en 71. Elle a écrit J'ai tué Emma Santos. Elle en a écrit plein d'autres. Itinéraire psychiatrique, le théâtre, ce qui est une pièce de théâtre. En fait, elle a écrit vraiment tout un tas de trucs, notamment où elle parle vraiment de la psychiatrie et tout ça machin, parce que c'est une nana qui je crois a été 7 fois internée, donc et qui en même temps était institutrice et écrivaine. Enfin, puis tout ça où on la prenait surtout pour une folle, quoi. Enfin, elle avait pas vraiment de. Ouais. Enfin, c'est un bouquin que j'aime bien. C'est un peu poétique. À des moments, elle dit des trucs sur la maternité. C'est un peu chiant. Mais après, c'est l'époque aussi. Et voilà, je pense qu'on peut passer à travers de quelques petits passages. Alors. Plus tard, je n'ai pas supporté. J'ai même pleuré. 50 petits fous autour de moi. Moi et mon amour imprimé, incapable de donner. 50 petits fous attachés. Les visages masqués par les tabliers. Prêt à être exécuté, déjà mort. Petit enfant, petit fauve rejeté du monde, je vous ai pris la liberté, votre toute petite liberté. Courez, filez, venez, vous pouvez m'embrasser. Écoutez-moi, nous n'obéirons plus à la directrice de l'orphelinat. Voilà la vie, je vais vous apprendre la liberté. Par un calme bonheur de livre. J'en peux plus, je déteste, je veux le bonheur vivant. Ils étaient étonnés, sidérés, quand j'ai défait les liens. Ils avaient l'habitude depuis la naissance, depuis qu'on les avait mis là, un jour, où leur mère n'en pouvait plus. Ils se sentaient mal à l'aise, se méfiaient, effrayés par la condition nouvelle. Hagards, le regard vague, paralysé. Ils avaient peur. L'enfant fou levait la main, regardait ses doigts de plus près, trouvait étrange de posséder une main. Il tournait la tête et découvrait la machine de son corps. L'enfant du silence respirait, poussait un petit cri, essayait un geste. Il se levait de sa chaise. Un petit fou, 50 petits fous sont nés de mon ventre. Je leur ai donné la vie. Leurs poumons s'emplissaient d'air. Ils criaient. Ils étaient bien vivants. Joie. J'enfante, materne. Je suis la grande pondeuse universelle. Ils braillaient, gesticulaient, se déchaînaient. À la fin, les 50 petits fous, les 50 petits martyrs, les petits crucifiés se sont jetés sur moi. Ils marchaient. Ils m'arrachaient les cheveux, griffaient mes mains, tentaient de me percer les yeux. Ils me giflaient à leur tour, giclaient de partout. Déchirer et manger mes vêtements. Des petits animaux trop longtemps assoiffés. Mais aussi, ils avaient des dents, ils étaient affamés, je l'ignorais. Ils avaient la rage et l'amour, comme nous. Ils étaient autre chose que des petits sacs de chiffon, je ne savais pas. Ils m'écrasaient, me piétinaient, fouettaient. Avec leurs chaises, je criais. Ils me déchiquetaient, un accouchement, tant pis. J'étais leur première victime, après, il y en aura d'autres. Je leur faisais confiance. Ils ont tué les infirmières, la directrice, les psychologues, les pédiatres, les psychiatres. Allez, petits fauves, tuez-moi, finissez-moi, tuez-les. Nous sommes coupables, nous méritons, rendons notre justice. N'attendons pas celle des hommes habillés en noir. On l'a bien cherchée, On vous a nargué, insulté, tué. On n'a pas su vous donner un geste, un mot, tant qu'il était encore temps. Vengez-vous, petit opprimé, vous vengerez mon enfance, vous libérez toutes les enfances meurtries. J'avais osé défaire les liens des chaînes. Après ce scandale, on m'a mise à la porte de l'orphelinat, sans me payer. Un mois de préavis. Ils ont rattaché les petits fous, la vie a continué. L'enfance est toujours bloquée, coincée sur une chaise. L'enfance, c'est des tas d'interdictions. Adulte, on ne s'en console pas. On interdit à son tour la revanche, la petite compensation. Victime ou bourreau, pas d'autre solution. Alors après, je vais vous lire un autre petit extrait. Et en fait, ce petit extrait, le premier que je viens de lire, c'est... En fait, elle commence par raconter une fiction qui introduit son texte, en fait. Qui a introduit après sa réflexion sur la psychiatrie et sur la condition des enfants dans les asiles, pour après arriver sur la condition des femmes dans les asiles psychiatriques. Le matin revient toujours. Tu as beau prendre du Larxatil, de l'Écantil, du Nubren, ça revient encore. Tu es celle Méril, du Nubred et sédatif, ça revient toujours. Hypnotique, antispasmodique. Le matin revient, le matin toujours. Tu as beau mettre un écran entre la lumière et toi, tirer le rideau, fermer la fenêtre, te retourner dans tes draps, te rouler en boule sous tes couvertures, t'enfoncer au matelas, t'engouffrer dans ton sommeil, te perdre, t'engoncer dans un rêve, tu t'englues comme une bête derrière tes yeux clos. Tu fais ton trou minable, gratte le sommier, refuse le réveil. Le matin est revenu, il est 10h, midi ou peut-être 2h. Ça n'a pas d'importance, c'est le matin. Un matin, il faut recommencer une journée, seul. Chercher ses espadrilles abandonnées au sol, aller jusqu'au coin cuisine, attraper la bouilloire, retrouver la fontaine du palier, revenir à la chambre, somnambule, allumer le but à gaz, sortir le grille-pain, le sucre, le lait, le beurre, puis laver le bol. Nettoyer la petite cuillère, les restes de café ou de sucre, moudre le café, remplir la cafetière, attendre le chointement de l'eau, verser et boire le café. Une journée commence. Quand la concierge grille des sardines dans sa loge mal aérée et empeste les escaliers, quand le voisin ivre claque sa porte sur une journée d'usine et retrouve son lit de fer, quand la bourgeoise d'en dessous ronronne devant sa télé et son épouse, tu es seule. Tu es une petite solitude. Tu n'es qu'une petite solitude entre des millions de petites solitudes. Bien sûr, il y a les besoins, besoins étouffants, obligations qui occupent. On oublie la solitude. On oublie sa peur en gesticulant pour des petites tâches. On fait des tas de petites choses très importantes. Se laver, manger, déféquer, se faire l'amour. Les nécessités masquent la vérité. On est rassuré. On se lave des fois comme un enfant, ce qui se voit. D'autres fois en profondeur. On prend des purges et des lavements, on se lave le cerveau. Manger, déféquer, c'est remplir, vider son corps continuellement, en sachant bien qu'il ne sera jamais ni trop plein, ni trop vide, toujours un juste milieu. Faire l'amour, c'est pareil, encore une question d'hygiène, d'équilibre, le besoin. La solitude, elle est là, elle est revenue. Elle t'envahit, elle t'assaillit à la gorge, t'assomme, t'engloutit entière, te submerge. Une chose est sûre, ma fille, tu es seule. Dedans, ils interdisaient l'écriture. La surveillante en chef m'avait jeté. C'est fini pour les mots. Qu'est-ce que c'est que ça? Montrez voir! Ah, vous écrivez, quelle idée! Faites voir! Et vous avez quelque chose à dire? Faites voir, allez montrer, allons! Ce n'est rien, non, non, c'est des mots. Des lettres, pour quelqu'un. Des lettres, c'est des lettres. Des lettres d'amour pour une personne. C'est pour parler à quelqu'un. C'est personnel, c'est à moi. Non, c'est rien. Rien. Bon, confisqué. Ordre est un ordre. C'est le règlement. La lettre, c'est moi qui vais la dicter. Tous les matins, je viendrai vous la dicter, la lettre. Et on l'expédiera nous-mêmes. J'ai cédé à l'engouement des mots. Comme on se laisse prendre par les petites manies rassurantes sans faire attention. Je n'ai pas de volonté. Je note, j'écris. L'écriture et moi, on est montre indécent. À peine regardable, immonde, surtout pas lisible. Ils renieront. Ils mépriseront l'enfant anormal. Ils le négligeront. Ils ne connaissent pas le regret. Je traverse, décidé, le pays des indifférents. Pieds nus, mes espadrilles et mon sac à l'épaule, c'est l'été. Mes hanches serrées dans mon pantalon, yeux à vif, un goût de sucre dans la bouche, je salive. Ce serait plutôt cireux, rance. Je crachote, transpire. La pointe de mes seins collée à mon pull. Je voudrais qu'il me frappe en plein ventre. Les mots, à retrouver. Une simple rencontre dans la rue. Ils m'échappent, les fuyards. Je les traque, harcèle, encèle. Les médicaments ont enseveli les mots sous les bancs. Je gratte, je tourne en rond dans cette ville, je m'affole. Je suis une fille à prendre, une folle à reprendre. Pour éviter les images poussiéreuses, il faudrait visiter l'intérieur des maisons, souffrir la souffrance des autres, toucher la douleur d'un regard, traverser les banlieues tristes, se promener dans les décharges municipales et les cimetières de voitures, fréquenter l'Assemblée nationale et le palais de justice. Pour retrouver les mots, il faudrait vivre debout, se secouer, gesticuler, fouiller, aller, ne jamais s'arrêter. Il faudrait saisir la couleur flottante de l'huile dans les rigoles, goûter le noir du sang. Il faudrait renifler les bruits colorés des machines qui traversent la ville. Il faudrait humer les petites choses au ras du sol, accepter d'être chien, s'accepter humble, interroger les objets qui racontent l'histoire de l'homme. Il faudrait avoir un ventre de verre et regarder pousser l'enfant. Alors un autre extrait. La barrière rouge et blanche du passage à niveau s'est abaissée. Le train entrait en gare. J'ai pensé, ce n'est pas un suicide, c'est un crime. On l'a suicidé. Quelqu'un est responsable. Moi, je me suis sentie coupable de mon sourire. Mon ironie, mon indifférence quand je l'ai frôlée, sans la voir. Quand je l'ai croisée, elle ou une autre, qui lui ressemble. À l'hôpital, ils n'ont entendu qu'une sirène annonçant un suicide sur la voie ferrée. Un de plus. Une sirène à la place du réveil. Le bonjour de l'infirmière et le petit déjeuner. Les pensionnaires mangent au réfectoire. Une journée commence sans histoire. On se demande pourquoi, on essaierait de s'en sortir. On a la solution. À 70 ans, ils vous reclassent à la maison des vieillards en face. Les banlieusards s'activent vers la gare. L'enfer du train bondé, la dame enceinte qui s'évanouit, les journaux et les chapeaux qui se heurtent, les jambes qui prennent des varices. Et puis tout s'arrête. Les pompiers casqués d'or et gantés de noir ont ramassé des débris de femmes. Une femme arrogante sur les rails. 1000 femmes éclatées qui cherchent un langage. Les voyageurs s'insurgent. Le sang avait giclé violemment sur les murs et le quai. En plus, un haut-parleur annonçait le retard du prochain train. Restait une main, oubliée, sur la voie ferrée. Main suppliante, quémandant encore un geste. Personne n'a compris. Personne n'a osé un geste de sympathie. Pas même moi, monsieur. Mon bras était raide. Je n'ai pas pu. Trop tard. Puis vint un fin soleil. Un nouveau train entrait en gare. Un nouveau jour s'ouvrait. À midi, à l'hôpital, on a mangé comme normalement le poisson du vendredi. À la fête mortuaire, ce n'était pas une morte que l'on enterrait, mais une caisse de bois vide, recouverte de fleurs. Rien. Ils faisaient semblant, les normaux. Ils jouaient. Un simulacre mauvais. Une mauvaise comédie. Les malades qui assistaient aux obsèques riaient. Les parents de la défunte étaient choqués. Le personnel de l'hôpital, digne, silencieux. Est-ce qu'on n'avait pas le droit de rire ? On enterrait le néant. On était immortel. La folie, son corps même, avait échappé à la logique des vivants. Les fossoyeurs remballaient les pelles. Ils ravalaient leurs larmes. Le curé de l'hôpital, qui avait refusé de célébrer la messe, recollait en vitesse quelques mots pleins de sueur sur l'âme. Enfin, il se sentait délivré. Une folle de moins, déchargée d'une casée définitivement, un dossier fermé. La tribu déchirée des folles surgit et investit le cimetière. Elles sont muettes, les malades. Elles se tiennent par leurs mains maigres. Elles secouent leurs cheveux. Elles ramènent sur leur visage timoré. Elles ricanent, indécises et confuses. Elles se cachent, se recroquevillent, puis se concentrent. Prennent leur élan, éclatent. Le défilé des folles martyrisées, frappées, humiliées, puis combattantes. Enfin, glorieuses. Elles gesticulent comme des pantins, rouges d'indignation. Elles écrasent avec leurs talons les couronnes des fleurs offertes par l'hôpital. Non, non, non. Vous n'avez pas le droit d'oublier si vite. Vous n'échapperez pas à la folie. Nous, folles, nous savons faire quelque chose. Ovuler, couver nos œufs chauds sous la dernière et enfanter la folie. Ils n'ont pas pu oublier. Quelque part, quelqu'un a dit non. Un mot. N'importe où. N'importe quel mot. Une invitation à la lecture. Un frisson. Un mot encore. Le premier. Le dernier. On peut tout inventer. Elle écrit sa peur et sa folie. Elle ne sera plus fort. Plus folle. Moi, j'ai marché avec mes yeux de myope et ma tête de lune flasque sans voir. J'ai marché dans le sang. J'ai marché dans les traces de sang qui restaient sous la pluie. J'ai lavé mes chaussures des jours, tant de fois. J'ai essayé de marcher encore. J'ai jeté mes chaussures et j'ai trouvé le langage de l'enfance. J'ai trouvé la déraison, la dérision, un langage tout blanc. Moi, prostée dans un coin de l'asile, dans ma chemise de nuit blanche, moi, attachée au lit, je regarde la cour de l'hôpital, deux arbres tristes et en blanc. J'attends les dialogues des médecins, j'entends les dialogues des médecins et des bruits de la cuisine. Dieu est un petit vieux qui fume sa pipe au coin du feu. Je suis la femme de Barbe Bleue. J'aime bien mourir dans le jeu. Je prends le rôle de la morte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ciel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terre. Je joue à la marelle. J'envoie le pavé dans l'enfer. Et je n'ai pas peur. La mère Michel est cinglée. Elle ramasse les chats crevés. Je donne ma langue au chat. Poussé, cassé, chat perché. Boum, boum, mignon, mignon, boum. Bu, 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 bu. Elle a choisi le cri. Elle ne veut rien d'humain, tant pis. Elle voulait faire un roman de gestes sans mots. Elle ne voulait pas les écrire, les mots. Elle aimait les effleurer de la paume. Un geste pour une fille qui lui ressemble. C'est si fragile. Ils peuvent casser les mots. Elle a peur d'être maladroite, grossière. Ils fuiraient comme les êtres qui l'ont quittée quand elle se montrait exigeante. Les mots, il faudrait qu'elle les dompte. Il faut qu'elle se laisse domestiquer. Ça prendra encore du temps. Mais peut-être, si elle tient bon, un jour. Alors non, tout de suite elle veut. Elle maltraite sa langue maternelle. Elle a eu envie de maltraiter sa mère. Il faut changer de langue pour se libérer de son enfance. Elle veut bousculer, déranger, inverser, renverser, désarticuler, désatomiser les mots, les anéantir, détruire, secouer, démolir, vider, les pulvériser les mots. Elle n'a pas su voir, écouter comme le créateur. Elle a essayé de toucher avec les mains le blanc, renifler avec un mufle d'hôpital. Elle n'a fait qu'avaler, recracher, enrouer sur elle-même dans un lit. Elle n'est pas sortie de l'œuf. Tout est à recommencer. Sa solitude se regarde dans une tache de lumière par terre. Le soleil regarde sa solitude et renvoie des multitudes solitaires. Partout, des milliers de solitudes, dans la chambre nue. Ah, si vous ne lui aviez pas donné vos sales mots, si vous ne lui avez pas appris vos mots, si vous ne lui avez pas dicté ce roman, Madame la Surveillante, si vous ne l'aviez pas torturée, matraquée, droguée, jusqu'à ce qu'elle répète vos mots à vous, si vous l'aviez laissée vivre sans médicaments, elle aurait eu son langage, le sien, celui que vous avez fait, dedans. Bravo, il est manqué. Alors voilà, c'est la fin. Moi, je vous conseille la lecture de ce bouquin. C'est un peu poétique et tout ça, mais après, ça parle de plein de trucs. Plein de trucs en même temps. Et il y a plein d'autres passages où elle parle davantage de ce qui se passe dans l'asile psychiatrique où elle est internée. Moi, je trouve que c'est un chouette bouquin. Qui est beau quoi et qui que je trouve aussi assez direct malgré que je trouve que les mots ils suivent de manière un peu folle. Et maintenant je vous lis juste le petit devant et puis aussi je fais un clin d'œil à Horty, à elle, la fille morte. Elle et moi, nous avons fui l'asile ensemble. Nous avons fui l'asile et le silence. Une nuit, un début de matin dans la neige, nous voulions retrouver les autres et les mots. Dehors, arrivés à la gare, nous avons eu peur. Nous étions par habitude. Nous n'étions pas habitués. Nous regrettions déjà. Nous voulions retourner dedans. Elle s'est jetée sous le train. Moi, j'ai continué. J'ai cherché les mots, un mot pas encore inventé.
Scientists are hard parking frog. Get five things and mix those up. Eat beef, you are father plane to get back, sweet home planet frog.
Alors, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle, où le groupe s'appelle, on sait pas trop, Ex-Girl, et c'est plutôt pas mal.
Donc, moi, je vais vous lire maintenant deux extraits de deux livres qui sont tous deux parus aux éditions Vertical et qui sont écrits par une femme qui s'appelle Griselidis Real. Griselidis Real, elle est née dans les années 30 à Lausanne. Elle a passé une partie de son enfance en Égypte et en Grèce. Après la mort de son père, elle revient finalement à Lausanne. Elle commence des études à l'école d'art et elle essaye de vivre comme artiste peintre. Et puis finalement, elle se retrouve divorcée, mère de 4 enfants, et elle commence à se prostituer en Allemagne pour survivre au début des années 60. Donc... voilà. Dans les années qui suivent, elle devient, disons, une catin révolutionnaire, quoi. Elle devient, en fait, très active dans les mouvements de prostituées lyonnais et parisiens qui voient le jour dans les années 70. Et puis elle participe à la fondation d'un centre international de documentation sur la prostitution et d'une association genevoise d'aide aux prostituées qui s'appelle Aspasie. Et finalement, là, elle a fini par mourir en 2005. Donc, le premier extrait que je vais vous lire, il est tiré du livre qui s'appelle Carnet de bal d'une courtisane. Donc, en fait, dans ce livre, elle évoque 20 ans, enfin en gros de 1977 à 95, 20 ans de récits, d'anecdotes et de détails en fait sur les clients qu'elle a eus, donc un peu leurs us et coutumes, le prix des passes et puis certaines de leurs caractéristiques. Et puis bon voilà, on y retrouve aussi son engagement politique dans le livre, quoi. Donc je vais d'abord vous lire l'extrait qui est sur la quatrième de couverture pour mettre un peu dans le contexte, et puis ensuite je vous lirai le début, quoi. Que tous les hommes qui viennent à nous, fatigués et chargés, comme il est dit dans la Bible, ceux que nous sauvons du suicide et de la solitude, ceux qui retrouvent dans nos bras et dans nos vagins l'élan vital dont on les frustre ailleurs, ceux qui repartent, les couilles légères et le soleil au cœur, cessent de nous emmerder, de nous juger, de nous renier, de nous taxer, de nous matraquer, de nous enfermer, de nous prendre nos gosses pour les mettre à l'assistance publique, d'enfermer nos amants et nos hommes de cœur. Donc voilà, c'est le début du livre, ça commence, ça s'appelle « 30 ans de métier ». Ceci est en quelque sorte un testament. Un adieu aux morts, un adieu aux vivants. La vie, c'est-à-dire son bord ultime, m'a rattrapé. En un dernier défi, peut-être pour avoir trop vécu. Le cancer, depuis 3 ans, me retient dans ses griffes, auxquelles j'échappe encore au prix de grandes souffrances et d'une lutte acharnée. Face aux misères du monde, ce n'est rien. Face au grand plaisir de la vie auquel j'ai tant goûté sans aucune restriction, c'est dur. Je n'ai plus jamais fait de client depuis décembre 1995. Le dernier, un petit ouvrier espagnol, un habitué de longue date, je l'avais surnommé secrètement Allumette. On devine pourquoi. Il fallait l'écraser, il fallait s'écraser et lever les jambes à l'équerre jusqu'au plafond pour le sentir entrer et puis éjaculer en restant bien attentif pour ne pas le rater. Il donnait à l'époque, comme tout le populaire travailleur immigré, 50 francs suisses. Ce n'était pas pénible, seulement émouvant. Et il repartait tout content, avec un sourire humble et reconnaissant, en marchant un peu de côté, comme tant d'autres après avoir joui, pour aller se réconforter au bistrot. J'avais 66 ans lorsque j'ai arrêté. J'en ai aujourd'hui 75. J'ai 30 ans de prostitution derrière moi, en comptant les arrêts et les reprises. La prostitution est un art, un humanisme et une science. Je l'ai dit et répété, le dirai et l'écrirai encore jusqu'à mon dernier souffle, en français, en anglais, en allemand, et même en italien et en espagnol s'il le faut. Aujourd'hui, avec le recul, je pense à ces 30 ans de métier, celui de prostituée, dite dans le beau langage courtisane ou péripatéticienne, avec infiniment de nostalgie et de reconnaissance. Mes enfants et moi avons pu manger à notre faim. Le corps humain, habité de son âme, est un instrument de musique, et la sexualité est son archer. Avec délicatesse et violence, il vibre, il atteint des sommets de volupté et d'extase. La seule prostitution authentique est celle des grandes artistes techniciennes et perfectionnistes qui pratiquent cet artisanat particulier avec intelligence, respect, imagination, cœur, expérience et volontairement, par une sorte de vocation innée, de vrais professionnels, conscientes de leur pouvoir et des limites de celui-ci, sachant se mettre dans la peau de l'autre, déceler son attente, son angoisse, son désir, et comment l'en délivrer sans dommage pour elle ni pour lui. Ce petit carnet de bal, que j'avais nommé autrefois Carnet noir, a été publié pour la première fois par Jacques Vallée dans sa magnifique revue d'art et d'humeur Le Fou parle, dans le numéro 11 de décembre 1979, avec une interview faite par Jean-Luc Hennig. Ce numéro avait d'ailleurs reçu le prix de l'humour noir. Le carnet a été repris ensuite en 1981 dans le livre Griselidis courtisane de Jean-Luc Henning aux éditions Albin Michel. Il s'agissait de conversations avec Jean-Luc Henning. Le carnet paraissait à la fin. Cela ne m'avait pas valu que des compliments. Les prostituées de Genève qui l'avaient lu me maudissaient d'avoir parlé d'argent et cité des prix, chose qui reste taboue, à cause des impôts d'abord, et pour ne pas donner de mauvaises idées aux clients, qui auraient tendance à baisser les tarifs, qui doivent rester secrets. J'ai même reçu des menaces de mort, on voulait me casser la gueule. Un des clients, reconnu par sa femme qui avait demandé le divorce, m'avait arrêté dans la rue pour me le dire, bouleversé. Donc ce petit carnet, qui me servait d'aide-mémoire, jeté en pâture au public, a fait l'effet d'une bombe à deux tranchants, car certains m'ont au contraire félicité et remercié pour les vérités révélées. C'est vrai qu'il n'épargne personne. C'est pris sur le vif. Et pourtant, je sais que tous ces hommes que j'ai connus, je les ai aimés, ils me manquent. Aucune prostituée digne de ce nom ne pourra jamais renier son passé. Il lui colle à la peau et au cœur. Comme le disait au téléphone une de mes amies de métier, nous sommes là pour soulager les souffrances de l'humanité. Quoi qu'en disent nos détracteurs et nos détractrices, ces intégristes de la morale et de cette même vertu qu'ils défendent et qui les étouffent, nous régnons sans partage sur notre domaine qui est de compassion, d'élégance, de connaissance, durement acquise et de l'âme et du corps humain. J'ai rencontré ici à Genève, ensuite à Paris et dans nos congrès internationaux de grandes dames de la galanterie, fières de leur talent, belle, lumineuse, éclatante de charme, d'humour et d'humanité héroïque, de tous les âges, toutes les races, tous les sexes, des plus humbles aux plus royales, érudites, cultivées ou très simplement vêtues de leur cœur, de leur courage, de leur amour, de la vie. Seule la violence et la cruauté qui contraignent des êtres, adultes et enfants, à se prostituer sans liberté ni volonté sont à proscrire. Et nous condamnons cette injustice de toutes nos forces, toujours et en tout lieu, en tout temps. Car nous n'appartenons et n'appartiendrons jamais aux esclaves, ni aux tortionnaires, ni aux lois qui nous sont contraires, ni aux abus de la morale. Nous sommes et nous restons libres. Libres de nos corps, libres de notre esprit, libres de notre argent, gagnés à la sueur de nos culs et de nos cerveaux. Libres comme des oiseaux migrateurs, habillés de couleurs somptueuses, survolant de très loin la misérable boue où l'on voudrait nous enterrer. Genève, le 16 janvier 2005, Griselidis Real. Donc là, je vais vous lire un extrait d'un autre livre qui s'appelle Les Sphinx. Et pareil, je vais commencer par vous lire un morceau de la quatrième de couverture pour remettre dans le contexte. Je vous écris tout le temps, en dormant, en rêvant, en vous écrivant, en ne vous écrivant pas. C'est devenu mon souffle, ma respiration, mon inconscient, ma force, mon réservoir de folie et de sensations fortes. C'est une existence parallèle qui s'est installée en moi. Vous n'y êtes pour rien, elle a pris sa place, simplement et délicatement, ainsi que la neige tombe, se fond, abreuve un paysage qui n'en garde qu'une trace invisible et pure de toute intention. Donc voilà, ce livre, c'est une correspondance entre elle et un auteur qui s'appelle Jean-Luc Henning. Très cher Jean-Luc, je réponds bien tard à votre si belle carte de fleurs. Veuillez me pardonner, je n'en avais pas la force. Perdre sa mère est un événement capital dans la vie, je le sais. Je n'ai sans doute pas encore surmonté la perte de la mienne. Mais à part le fait qu'on doit l'accepter, il faut aussi savoir qu'elles ont été libérées de leur souffrance, du poids de la vieillesse et souvent de la maladie, que nous sommes tous mortels, qu'il faut avoir besoin beaucoup vécu et aimé la vie malgré toutes ses trahisons et ses férocités et ses coups de poignard, et que la mort peut être douce, un achèvement, une consécration, une récompense, la paix, comme le final d'un morceau de musique. Moi, je la vois ainsi, comme une grande victoire. Je refuse la tristesse, ou alors qu'elle soit parfumée comme les fleurs, qu'elle laisse dans son sillage comme l'éclat d'une comète. Je pense très fort à vous, cher Jean-Luc, et vous embrasse. Comme vous le savez donc par Jacques Vallée, ce vieil ami si fidèle et si cher, je suis malade. Et depuis longtemps sans m'en douter, en tout cas sans m'en apercevoir, comme c'est le cas souvent avec ce genre de maladie sournoise, le cancer. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, comme vous pouvez vous en douter. La vieille sorcière des Paquis a de la ressource, dans son âme blindée et fortifiée par les malheurs, même si le cul est momentanément à zéro. Les médecins ont pu constater avec stupéfaction qu'à la dernière prise de sang, Le marqueur indiquait au bout d'un mois de séjour ici, tout à coup, au lieu de plus de 1000 cellules malades, seulement 498 exemplaires, moins de la moitié. Donc je suis en rémission, je le sais depuis 2 jours. Un cadeau du diable ? Peu importe, c'est tout de même extraordinaire. Moi qui m'apprêtais déjà à faire chier le monde jusqu'au bout en exigeant d'avance qu'on marque sur ma tombe « prostituée », ce qui certainement ne s'est jamais vu nulle part, il faudra encore un peu attendre. Je suis toujours pleine de venin, comme vous le savez. Cela complète avantageusement les séances de chimiothérapie intraveineuse qu'on m'a faites. De la dynamite, comme me l'a dit le médecin-chef. Donc, la dynamité se porte le mieux possible. Le 1er juillet, je retourne à Genève, chez moi, dans cet abominable taudis où les documents, les livres, les papiers non classés s'étagent à des hauteurs spectaculaires et poussiéreuses et qu'on m'a sans arrêt empêché de mettre en ordre à coups de harcèlement médiatique. Congrès, interviews, voyages sociologiques, inaugurations, débats, colloques, entretiens, sans compter les conférences, réunions et émissions de radio et de télévision, les enregistrements vidéo, etc. Et jusqu'au total épuisement qu'aujourd'hui je comprends enfin, cette maladie qui m'a offert brusquement les vacances et le repos dont j'ai été privée depuis maintenant 24 ans. Et encore, les dites vacances, les dernières, aller se faire tabasser et presque tuer par le berbère à Tunis en avril 1978, pouvait-on vraiment les appeler des vacances ? Ou plutôt une sérieuse mise en garde du destin ? Cher Jean-Luc, j'espère que vous écrivez toujours vos magnifiques livres et que vous êtes heureux malgré le chagrin. S'il le faut, la vie est exigeante et ne nous lâchera pas. Elle donne, elle reprend, elle redonne, comme une vraie garce. On ne peut s'empêcher de l'aimer, même en criant grâce. Elle est trop belle, trop mystérieuse, trop délirante aussi, parfois. Je ne vous ai plus écrit depuis longtemps. Comme je vous l'ai expliqué, on m'a usée, achevée, assassinée, mais je suis toujours là, et je sens en moi tout à coup un renouveau de force et de résistance diabolique, végétale, animale, électronique, imputrescible. Nous sommes là pour donner du tonnerre aux horizons fades de cette civilisation dégénérée et déliquescente qui végète dans ses déchets inutiles. Cher Jean-Luc, soyez, éclatez, écrivez, vivez, je vous aime infiniment. Donc c'est le 5 juillet 2002. Cher Jean-Luc Henning, les gens sont des mauviettes, ils ont du jus de navet dans les veines. Personne à part quelques artistes boucanés et tannés n'ose regarder la vie et la mort en face. Non, il faut se voiler, s'entourer de gaz, de charpie, de bandes velpeau pour les protéger, anesthésier leur charpente fragile et leur intellect anémique. Dites à quelqu'un, en le regardant dans les yeux, ou même au téléphone, « j'ai le cancer », et ce sont aussitôt des exclamations à demi feutrées, des glissements de voix, des cris étouffés, « quelle horreur, vous me faites de la peine, oh, quel malheur !» Gardez bien le moral, surtout. Courage, tenez bon. Soignez-vous, espérez. Enfin quoi, il faut mettre 3 paires de gants pour leur annoncer la nouvelle, qu'ils ne s'écroulent pas devant vous. On pleure sur mes poèmes, paraît-il. C'en est trop. Un peu de punch, bordel, ayez plus de classe. Moi, je m'en contrefous. Je danse déjà sur mon futur cercueil, et surtout qu'on ne vienne pas larmoyer, et surtout, mais alors surtout pas faire de prière sur mes restes. Tout est bon à prendre dans cette chienne d'existence, y compris le pire, et non le meilleur, illusion fugace. Tenez, en ce moment même où je vous écris, il est passé 9h du matin, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner, tout en vous écrivant et rédigeant en même temps un horrible poème. Celui-là, il faudra s'accrocher pour le lire. Il s'intitule « Festin ». Je vous laisse deviner lequel, celui de nos carcasses, pardi. Bon, je vais me verser une tasse de thé au jasmin et me beurrer une tartine, recouverte ensuite d'un fromage typiquement suisse, de l'Emmentaler doux. C'est moins cher et aussi moins bon, évidemment, que le gruyère fort. J'économise pour me venger, en me payant toutes sortes de choses de luxe et délectables. De magnifiques pots de fleurs sur mes fenêtres, j'adore les fleurs, et des livres, encore des livres, je suis folle de lecture, comme toujours. À la clinique, j'ai lu d'une traite. Je vous laisse une minute, j'ai faim. Donc j'ai lu, sans en sauter une ligne, le livre bouleversant d'Hervé Gilbert, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, lu également de George Samprin, Le mort qu'il faut, cela se passe à Buchenwald, où il a séjourné. Lu aussi à l'hôpital de Genève, Seznec, le bagne, par son petit-fils, qui se bat toujours pour la réhabilitation de son grand-père, innocent, qui a fait 20 ans à Cayenne, cet enfer. Vous savez, après avoir lu ce genre de récit, nos petites misères à côté, c'est du sirop de framboise. bah voilà, c'est fini.
Oh ma folie, mon beau bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ses bassins, de ses jets d'eau, de ses enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été. Et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons. J'en ai assez du postillon, et des litrons, et des graillons, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez des rues de Sèvres, où les vieillards doucement crèvent dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.
Vous êtes toujours sur Dégenrés pour une émission littéraire. Et là, je vais vous parler de Dirty Weekend de Hélène Zahavi. C'est un livre qui est sorti dans les années 90, en 91 plus précisément, et qui a fait l'objet d'une demande d'interdiction au Parlement de Londres parce qu'il était jugé immoral. Et c'est un peu l'histoire d'une meuf à qui il arrive plein de trucs plutôt glauques et qui dit qu'à un certain point, on a assez. La première phrase du livre, d'ailleurs, c'est « Voici l'histoire de Bella qui se réveilla un matin et s'aperçut qu'elle n'en pouvait plus. » Et donc Bella décide de tuer des gars. Et se balade dans la rue, dans Brighton précisément, et dégomme des gens. Et on va en lire un petit passage. Ses yeux bougeaient derrière ses paupières. Elle regardait ses yeux. Ils bougeaient tandis qu'il rêvait. Il rêvait d'elle, endormie dans son lit. Il rêvait qu'il la possédait sauvagement sur le sol. Il la possédait sur le sol de la salle de bain. Il versait l'acide sur sa peau. Il écoutait le grésillement. Il respirait l'odeur de brûlé. Et il la regardait se dissoudre sur le sol de la salle de bain. Elle hurlait sans son rêve. Elle mourait dans son rêve. Et ses yeux ne cessaient de bouger derrière ses paupières. Elle sortit le marteau et contempla son visage. À cause de cet homme, elle tremblait dans son terrier. À cause de cet homme, elle vivait dans l'obscurité. Elle observa le visage abruti de sommeil. Ce visage inexistant. Ce visage de rien du tout. Ce visage anonyme de pervers. Elle tenait le marteau dans son gant de velours. Elle leva le bras droit. Il suffisait de l'abaisser. Il suffisait de l'abaisser sur sa tête, avec violence. Simplement le laisser tomber. Le faire maintenant. Le faire pendant que c'est possible. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas faire ça pendant qu'il dormait. Elle était peut-être beaucoup de choses, mais pas un monstre. Pas une cinglée. Pas une psychopathe. Elle n'avait pas encore rompu toutes les amarres au point de le tuer pendant son sommeil. Bella est une gentille fille. Et quand les gentilles filles font du mal aux vilains garçons, elles prennent soin de les réveiller tout d'abord. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Timothy dormait toujours, esprit joyeux, joyeusement ignorant de la vision qui l'attendait. La vision de Bella dans sa chambre, brandissant un marteau. Elle ferma à demi les yeux et approcha ses lèvres finement ourlées de son oreille. Elle darda sa langue et lécha le lobe. Le drap bougea au niveau de son entrejambe. Elle souffla son haleine chaude sur son visage, et il sourit dans son sommeil, enveloppé de son odeur. Ville, ville Bella, séductrice doucereuse, nymphe nécrophile de la nuit, destructrice de monde. Le salopard semblait si serein. Il aurait pu conserver cette sérénité à jamais. Il aurait été heureux. Elle aurait été heureuse. Il aurait pu mener son existence futile. Il aurait profité de toute son espérance de vie. Il aurait pu vivre jusqu'à 70 ans, et sourire dans son sommeil en faisant des rêves obscènes. Il aurait pu garder tout ça dans sa tête, comme la plupart des gens. Il aurait pu enfermer tout ça dans sa tête, et se tenir à l'écart du monde. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas à Timothy. Il fallait qu'il trouve une femme pour la harceler avec sa peau moite. Il fallait qu'il pénètre dans son cerveau pour en extraire une putréfaction et l'étaler sur son visage. C'était un besoin. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il ne désirait qu'une chose. Satisfaire son besoin. Et parmi toutes les femmes qu'il aurait pu choisir, parmi toutes les femmes qui auraient cédé, cet imbécile l'avait choisie. Elle dont les désirs étaient encore plus noirs que les siens. Elle l'observait tandis que le drap se mouillait. Elle l'observait tandis que les minutes passaient. Elle avait gagné la partie. Elle l'avait vaincue. Elle s'était introduite dans son antre et était restée près de son lit. Magnanime dans la victoire, elle lui accorda quelques instants fugitifs d'extase. L'extase que seule peut vous procurer Bella quand elle vous lèche le lobe de l'oreille. Si elle avait su qu'il était condamné, cela aurait sans doute été son dernier souhait. Connaître ce plaisir dans le noir, connaître ce bien-être dans le noir, gravir la montagne dans le noir et redescendre de l'autre côté. Elle lui accorda tout cela, bien qu'il n'en valût pas la peine. Mais Bella accorde, et Bella reprend. Après la partie de plaisir, on fait les comptes. Il y a un temps pour arriver et un temps pour s'en aller. Un temps pour le plaisir et un temps pour être jugé. Elle fut frappée par la solennité de cet instant. Eût-elle été une adepte des rites, elle aurait remplacé son écharpe pourpre par un petit carré noir de bon goût. Pour Bella, la justice n'est pas la justice biblique. Jamais elle n'appliquera le principe œil pour œil, dent pour dent. Cette parité laxiste et molle lui donnerait presque envie de vomir. Elle exige un œil pour une dent et une vie pour un œil. Aussi, malgré sa répugnance à s'introduire chez lui, son dégoût et l'idée d'entrer sans y être invité dans son jardin des plaisirs, privé, mais consciente néanmoins que Tempus inexorablement fugit, elle prit le coin du drap dans sa main gauche. « Excuse-moi, » dit-elle en arrachant d'un geste brusque le drap en coton. Il ouvrit les yeux, l'aperçut, et gicla, comme une baleine. Un réveil très brutal. Il regardait d'un air ébahi les silhouettes encapuchonnées près de son lit. L'horreur dans ses yeux. L'horreur qui apparaissait lentement dans ses yeux était un souvenir qu'elle serrait contre son cœur pendant de nombreuses nuits solitaires. Pour la première fois de sa vie, elle regardait le visage d'un homme et elle y voyait scintiller le reflet de sa propre peur. « Enfin seul, » dit-elle. « Tous les trois. Imaginez, imaginez un peu. Vous vous réveillez et vous la voyez près de votre lit. La femme de vos rêves humides se tient près de votre lit. La femme de vos pensées obscènes, la femme de vos désirs inavouables se tient près de votre lit, avec un marteau. » Elle ôte son écharpe pourpre en vous regardant avec un grand sourire. C'est la première fois que vous lui voyez ce sourire. Elle sourit si rarement. Elle a le grand sourire du manant, avant qu'il n'embroche le seigneur avec sa fourche. Un grand sourire à brûler les prisons. Un grand sourire qui indique que la patience a ses limites. Et Timothy, le pauvre Timothy, s'est réveillé pour voir ça. Elle le frappa avec le marteau sur la joue. Un coup oblique, désinvolte, pas trop violent. Juste assez pour briser l'os. Elle le frappa de nouveau pour bien lui faire comprendre qu'il ne rêvait plus. Elle le frappa de nouveau pour garder le rythme. Et elle le frappa encore une fois, pour le plaisir. Même Bella, même la petite et fragile Bella peut soulever un marteau. Même elle peut le tenir dans ses mains, le brandir bien haut et frapper avec. Le choc du métal sur l'os produisait un bruit plutôt inhabituel. Si elle avait pratiqué le cricket, cela aurait pu lui évoquer le choc de la balle sur la batte. Mais elle ne jouait pas au cricket.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning. I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning. I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning. I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning. I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning,
between my brothers and my sisters.
Ben voilà, juste après ce petit morceau de Dirty Weekend, on vient d'écouter If I Had a Hammer de Wanda Jackson, traduit par Si j'avais un marteau.
Les petits coups de marteau dans leur petite gueule. Alors c'est un peu la fin de l'émission. On avait prévu de vous présenter un autre truc, mais alors c'est deux BD, et ça demande à discuter un peu de temps, et là on n'a pas trop le temps, mais j'ai qu'à vous le dire quand même, c'est Daddy's Girl de Debbie Dreschler.
Ouais, Dreschler.
Dreschler. et du coup, on fera dans une autre émission littéraire parce que ça demande à discuter autour de ça.
Ouais, puis vu qu'on vient déjà de lire plusieurs choses pas forcément très très légères, on le gardera peut-être pour une prochaine. C'est pas non plus très très léger.
Puis en même temps, c'était pas mal de... d'entendre toutes ces choses.
Absolument.
Alors on a qu'à juste redire qu'est-ce qu'on a lu. On a lu pour commencer une BD
Fun Home de Alison Bechdel,
et puis après on a lu des extraits de La Malcastrée d'Emma Santos
aux éditions des femmes.
Et puis après, on a lu deux extraits de deux bouquins différents de Griseldis Réal. Un qui s'appelle
Carnet de balles d'une courtisane.
Ouais, et l'autre qui s'appelle Les Sphinx, et tous les deux aux éditions verticales.
Ouais, je crois qu'elle en a écrit. Il y en a plusieurs qui s'appellent Les Sphinx, qui sont des correspondances.
En fait, elle a aussi écrit un autre bouquin qui s'appelle La Passe Imaginaire. Et un autre bouquin qui s'appelle Le Noir est une couleur.
Mais maintenant, c'est un peu autobiographique, je crois. Elle raconte sa vie. Puis voilà. Ah si, il y en a un autre.
Qui s'appelle Dirty Weekend de Hélène Zahavi. C'est le dernier qu'on vient de lire, là. Avec l'histoire du marteau. Et
voilà, c'est tout. On avait à vous dire aussi que bientôt, on organise un Lady Fest.
Un festival.
Un festival pour les schtroumpfs. et du coup voilà, c'est du 12 au 20, et ce sera à Grenoble, donc on vous y invite.
Du 12 au 20 mai
2007
bien sûr. Et qu'il y aura tout un tas de trucs fous dans ce festival. Il y aura des ateliers avec plein de trucs de prévus, comme mécanique sur vélo, comme atelier frise sur la sexualité des femmes et la réduction des risques.
Il y a une déambulation nocturne qui est prévue aussi, sur le principe de Take Back the Night.
C'est ça.
Des concerts en préparation.
Ouais, des concerts. Et
du théâtre.
Ouais, du théâtre.
Et puis n'importe quoi aussi. Et aussi une cantine du soir. Alors ça, c'est super sympa. Genre un peu une cantine en grève, on pourrait dire.
Ouais, une cantine autogérée en grève. Et aussi, il y aura un concert de soutien pour ce Lady Fest le 23 mars, la salle des fêtes du Percy, dans le Trièvre, où il y aura Scarb, les Revengers et les Kiss Kiss Martin. Et
ça va être trop bien.
Ça va être trop bien, et il faut venir pour qu'on puisse faire le Lady Fest.
C'est plutôt quoi comme genre de musique ?
C'est plutôt du punk. Punk boîte à rythme, je crois. C'est
la définition. C'est les meilleurs groupes du monde entier.
Les Revengers, c'est super bien. Et c'est pas vraiment du punk, mais. C'est indéfinissable, ça dépasse les bornes du merveilleux.
J'aime pas le punk, en tout cas j'aime bien les Revengers.
Et les Kiss Kiss Martin, c'est un peu du punk Riot Girl, quoi.
En gros, il faut venir, ça va être vachement bien. En plus, on a besoin de thunes, alors t'as intérêt à venir. Youpi. Et puis, on va écouter une petite chanson que on aimerait tout ensemble dédicacer à Michel et...
Et à Marina.
Et à Marina, et puis à tous ceux qu'on aime aussi. Et...
J'attendrai.